savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, on se penche tout d'abord sur le métier d'intervenant social en gendarmerie. Un poste d'intervenant social a en effet été créé au mois de juin au sein de la communauté d'agglomération Béthune-Brouet Artois-Lys Romane. Et c'est Sonia Quille qui occupe ce poste et qui a déjà de très nombreux dossiers à traiter. Un chiffre qui n'est pas anodin. Le département compte 7 intervenants sociaux en gendarmerie. C'est le plus élevé en France en termes d'intervenants, de nombre d'intervenants sociaux contre une moyenne de 2,5 par département au niveau national. Reportage.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la communauté de Béthune-Brouet Artois-Lys Romane, avec le concours de l'État et du département du Pas-de-Calais, a mis en place un poste d'intervenante sociale en gendarmerie. Cette intervenante opère dans les communes de la communauté d'agglomération qui sont situées en zone gendarmerie. Rappelons au passage que la charge de la sécurité publique revient à la gendarmerie dans les communes de moins de 20 000 habitants et à la police dans les communes de plus de 20 000 habitants, bien qu'il existe quelques exceptions. Sonia Quille a été recrutée au mois de juin pour ce poste. Elle nous explique tout d'abord son parcours professionnel.
Alors, j'ai travaillé auprès de demandeurs d'asile, donc auprès de personnes qui avaient le statut de réfugié et de personnes aussi déboutées. Et j'étais aussi mandataire judiciaire après, pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, intervenante sociale en gendarmerie. Donc moi j'interviens, donc mon bureau principal est sur Béthune et j'interviens dans le nord, donc au niveau d'Isberg, de Saint-Venant, La Couture, et en bas j'interviens sur Versailles, Coupigny en fait.
Je voulais savoir un petit peu à quoi ressemblait une journée type pour vous.
Alors une journée type pour moi, donc moi je travaille le mardi, le mercredi matin et le jeudi, comme là aujourd'hui je suis arrivée ce matin. J'ai traité les situations de la semaine dernière en fait. Après je suis partie en visite extérieure chez les personnes, et en rentrant j'ai regardé au niveau de mes mails, et puis j'avais des situations à traiter en urgence, donc j'ai traité ces situations avant de venir ici en fait. Mais chaque jour est différent. On peut pas dire ce matin je vais faire ci ou je vais faire ça, quoi. On s'adapte en fonction de la situation et en fonction de ce qu'on va voir le matin en arrivant au bureau.
Qu'est-ce que vous pensez apporter à la gendarmerie en termes d'écoute? Parce qu'on a parlé des victimes, des femmes victimes. Qu'est-ce que vous pensez leur apporter en termes d'écoute, de technique d'écoute, entre guillemets?
Moi, je suis là pour le volet social. Et les gendarmes, c'est tout autre. Donc, on a chacun nos missions bien définies. Et on avance ensemble, justement, pour permettre aux personnes de ne plus devoir faire appel aux gendarmes, en fait, très clairement. Et puis, pour que ces personnes aillent beaucoup mieux. Donc, il n'est plus besoin d'avoir recours aux forces de l'ordre, en fait.
Et le poste s'est créé de quelle manière ?
C'est un financement tripartite, hein. Donc la communauté, plus l'État et le département. Et donc moi, je suis arrivée en juin et j'ai pris mon poste en juillet. Et parce que j'ai fait des stages auparavant auprès de la communauté, auprès de la gendarmerie. J'étais aussi avec une collègue qui est sur Saint-Paul, et puis avec ma collègue qui est en zone police. Donc en juillet, j'ai commencé sur mon poste, et puis petit à petit, c'est vrai que la charge de dossier, augmente. Et donc c'est vrai que 20 heures semaine, c'est quand même peu pour pouvoir répondre à la demande en fait.
Sur 51 communes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Donc sur Isberg, Saint-Venant, La Couture, et puis en bas tout ce qui est Versailles-Coupigny et autour en fait.
Et donc vous avez déjà traité, je crois, à peu près 70 dossiers, c'est ça?
Oui. C'est vraiment une charge de travail quand même très conséquente. Et c'est vrai que, comme je vous disais, sur 20 heures, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Mais oui, donc là, ce mois-ci, 25 situations. Ouais.
La plupart des affaires que vous traitez, ce sont la plupart du temps des violences intrafamiliales, c'est ça ?
Donc, il y a des violences, oui, intrafamiliales. Il y a aussi des situations où... par rapport à des enfants, hein, donc qui ne vont plus en cours, donc problème, les parents se sentent démunis, aussi des personnes âgées qui sont isolées, aussi des personnes qui sont sans domicile. Hein, c'est vraiment très donc au niveau soit victime ou aussi au niveau des auteurs. Hein, c'est en fonction des demandes des personnes en fait. Hein. Après, moi, je sollicite aussi les gens en fonction des fiches de saisine que je reçois. Et comme je disais tout à l'heure, les personnes, si elles n'ont pas, si elles n'ont pas besoin, si elles ne veulent pas d'aide, après, moi, je laisse mes coordonnées. Et si par la suite, elles veulent me recontacter, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, votre rôle, c'est surtout un rôle en fait, d'orientation vis-à-vis de ces personnes ou c'est de l'écoute et de l'orientation ?
Oui, il y a de l'écoute, de l'accompagnement et de l'orientation, en fait. Oui. Donc moi, c'est vraiment orienter les personnes vers les bons partenaires pour justement résoudre leurs difficultés sociales, en fait.
Et vous y parvenez dans certains cas ?
Bah, comme je vous dis, en fait, si les personnes veulent un accompagnement et une orientation, il n'y a pas de souci. Après, il y a des personnes qu'on appelle, hein, par exemple, les personnes qui ont des soucis d'alcool. On ne peut pas forcer les gens, hein, donc voilà, c'est ça. Hein, donc non, je n'ai pas de problème, tout va bien. Donc voilà, après, on ne peut pas forcer les gens. Et ils sont auteurs, ils sont acteurs de leur vie. Hein, donc voilà. Donc on est là pour... je leur dis bien qu'on est là pour les accompagner, pour les aider. Mais après, s'ils ne le souhaitent pas, bah voilà. Mais je laisse mes coordonnées au cas où ils changent d'avis.
Sonia Quille, qui est depuis quelques mois nommée au poste d'intervenante sociale en gendarmerie à Béthune. Nous avons demandé au colonel Berton Mallet du groupement départemental de gendarmerie du Pas-de-Calais quel était l'apport pour la gendarmerie de cette intervenante sociale.
Le grand avantage, c'est qu'on a dans les lieux de travail de la gendarmerie une experte de l'accompagnement social, une référente qui a tout un carnet de contacts à sa disposition et où on peut accompagner dans l'immédiateté et en continuité d'une plainte éventuellement ou d'une vision de traitement pénal, tout de suite passer à un accompagnement social sans imposer un parcours ou une rupture entre les deux.
Ça devenait quelque chose d'indispensable pour vous sur le territoire ?
La typologie du territoire, les cas que nous rencontrons, on a toujours une dimension sociale. On constate au travers des gens qui ouvrent la porte d'une brigade. Très, très, très souvent. Et c'est pour ça que, pour être plus efficace, puisque de toute façon, ces gens seront suivis d'une manière ou d'une autre, auront des besoins, de le faire avec une chaîne très cohérente, évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Je pense que le besoin a toujours été là. Les situations sociales ne sont pas d'aujourd'hui, sauf que maintenant, on apprend à travailler en partenariat. On apprend à rendre cohérent le continuum de traitement pénal, social. Et là, on avait un produit avec ces intervenantes sociales qui a donné satisfaction dans plein d'autres arrondissements. Et là, le territoire ici, évidemment, en avait besoin aussi.
Vous avez dit tout à l'heure, pendant votre discours, justement, qu'il y avait aussi un apport du point de vue, on va dire, des techniques d'écoute.
Alors, c'est pas faux. Le militaire, la gendarmerie est un professionnel de l'investigation, de l'intervention. De par son état, c'est un professionnel de l'écoute humaine. Il fait ça toute sa journée. Maintenant, dans le cadre de certains contentieux ou de certaines victimes, il est évident qu'on peut toujours s'améliorer dans notre abord des choses avec une écoute plus... peut-être plus empathique, plus gratuite, sans chercher l'efficacité immédiatement, hein, policière. Et là, d'avoir Madame Key auprès de nous, avec un regard de femme, quand il s'agit de victimes femmes, et un regard social, peut nous faire grandir aussi dans notre approche et dans notre manière d'accueillir.
Vous aimeriez plus d'intervenants sociaux sur le territoire ?
Alors, pour l'historique, aujourd'hui, la gendarmerie en disposait de 5... ici, ça sera la sixième. Et nous avons deux autres projets sur deux autres parties du département pour atteindre, on l'espère, sept intervenantes, dont certaines sont partagées à mi-temps avec la police nationale. Parce que le département est grand et, comme vous le savez, on a le plus grand nombre de communes et, en termes de population, on se situe très haut.
À l'instant, le colonel Berton Mallet du groupement départemental de gendarmerie du Pas-de-Calais au micro de Radio Plus. Les échanges entre les brigades de gendarmerie du Béthunois et l'intervenante sociale en gendarmerie sont très réguliers, comme l'explique le lieutenant Steve Caron, commandant de la communauté de brigade d'Isberg.
La mise en place, elle s'est faite très très rapidement. On avait déjà débriefé avec la compagnie à ce sujet, donc les militaires attendaient l'intervenante sociale. Il y a des modes de saisine en fait qui sont très très rapides, qui sont pratiques, qui sont ancrés déjà dans notre logiciel LRPGN. Donc les militaires savent qu'à partir du moment où ils interviennent sur une situation qui peut être pénale et qui va nécessiter en fait un suivi social, la saisine sera faite en fait systématiquement dans la foulée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même s'il n'y a pas un volet pénal en fait qui intéresse la gendarmerie, mais qui nécessite en fait un intérêt social, la saisine se fait quand même si la gendarmerie n'intervient pas. Voilà.
Le président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, Alain Wacheux, revient sur les raisons qui ont incité la communauté d'agglomération à mettre en place ce poste d'intervenant social en gendarmerie.
On avait une première qui était un poste d'intervenant pour la police. Intervenant social, ça veut dire que dans toutes les relations que les personnes ont avec un service de police ou un service de gendarmerie, il y a toujours une composante sociale, il y a toujours un fonds social et ça doit être pris en considération et il doit y avoir une réponse adaptée aussi dans ce domaine-là. Il se trouve que le département, la dernière fois, c'était en 2013 pour la police, et notre agglomération cette fois pour la gendarmerie, on a décidé de doter la police et de doter la gendarmerie d'un poste, de nature sociale pour accompagner. Alors, on pense évidemment aux plaignants, souvent aux plaignantes d'ailleurs, mais c'est aussi une relation qui est quelquefois à établir avec les mises en cause, tout ça. Et donc on a trouvé sur un constat qui est partagé, parce que l'État évidemment le constate, et en particulier à travers la gendarmerie en l'occurrence, le département qui a vraiment un travail important sur le champ social se dit que peut-être il y a aussi quelque chose à ne pas négliger là. Et nous avons pris une compétence en matière de prévention de la délinquance et d'ailleurs d'accès au droit. Et finalement, on s'est retrouvé, assez intelligemment pour dire si un poste est utile, alors créons-le ensemble. Et ça fait l'objet d'une convention et c'est cette convention que nous venons de signer.
Alors visiblement, étant donné le volume de travail, ça n'est pas suffisant encore.
Oui, j'ai entendu il y a quelques jours déjà, mais ce soir encore, mon conseiller délégué, Jean-Pierre Bay, veut dire que la charge de travail est réelle. Nous n'en doutions pas. Et il nous rappelait que Sonia Key, qui a pris ses fonctions, avait à peine 3 mois, traitait déjà plus de 70 situations et que, à son avis, un mi-temps, très rapidement, s'avérerait un peu faible en volume horaire. Il se trouve que, vous l'avez entendu, le directeur, le commandant de la gendarmerie du Pas-de-Calais nous dit aussi on a une charge de travail telle que, assurément, le poste pourrait ou devrait probablement être un peu étoffé. On va laisser prendre le rythme de croisière pour la mission qui a été confiée. Et l'année prochaine, nous verrons bien entre partenaires s'il y a lieu d'étendre ou pas le volume horaire. Mais je suis persuadé que la mission est absolument utile, même nécessaire, et que c'était bien que nous trouvions ce partenariat, y compris partenariat financier, puisque finalement, vous l'avez compris, le poste il est cofinancé par l'État, par le département et par la communauté d'agglomération.
Ce qui pourrait évoluer.
Ça pourrait évoluer, me dit-on, dans les pourcentages, oui, effectivement.
Vous n'avez pas d'idée de cette évolution? Est-ce qu'elle va aller dans le sens, justement, d'une plus grande participation de l'État, etc.?
Je n'ai pas compris dans les hypothèses qui m'ont été avancées que ça se traduirait par une participation plus importante de l'État. Bon, il faudra peut-être que l'agglomération s'implique un peu plus financièrement en la matière. Le préfet rappelait tout à l'heure, et je pense que c'est une indication qu'il nous a donnée, qu'en général, le financement se faisait en 3/3 égaux, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le moment. Donc, peut s'attendre probablement à une évolution de cette nature.
Alors au niveau des problématiques concernant justement la délinquance sur votre territoire, quelles sont les problématiques les plus fortes ?
Je l'ai indiqué, lorsqu'on a des situations qui concernent la gendarmerie, c'est vrai aussi pour la police, ou quand les personnes font appel à la gendarmerie ou à la police, il y a toujours un fond de préoccupation, de situation sociale préoccupante. Et là, incontestablement, et on le voit d'ailleurs dans les cas qui ont été traités, on a eu beaucoup, beaucoup de situations de femmes victimes. Et alors je sais bien que le thème est souvent médiatisé actuellement, il fait l'objet de beaucoup de campagnes et de mobilisations, mais il faut bien reconnaître que dans les statistiques que nous avons, les situations sociales qu'il y a à traiter sont souvent des situations de violence dans la famille, et en particulier avec des femmes victimes. Et quand on parle de femmes, on imagine aussi la situation des enfants qui peuvent être eux-mêmes maltraités, mais qui, même s'ils ne le sont pas directement, sont quand même dans un milieu qui est particulièrement cruel pour eux, puisque c'est ce milieu de conflits, voire même de violence au sein de la famille. Donc effectivement, c'est ce type de délinquance est particulièrement repéré, observé et accompagné, parce qu'il faut vraiment accompagner les personnes.
C'est un peu la mission de l'intervenante, en fait, hein, de pouvoir orienter le mieux possible les personnes victimes, notamment.
Oui, elle n'est pas spécialisée dans ce type de difficultés, hein, tout le champ social la concerne, mais d'expérience, déjà, on constate que c'est surtout ce genre de situation qu'elle a à traiter.
Alain Wache, le président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane. Le département du Pas-de-Calais est celui qui possède le plus d'intervenants sociaux en gendarmerie, 7 au total contre une moyenne de 2,5 par département. Pourquoi ce chiffre élevé ? La réponse de Nicolas Honoré, le désormais ex-sous-préfet de Béthune, puisqu'il est depuis le 4 novembre dernier en place à la sous-préfecture de Meaux en Seine-et-Marne.
L'explication du nombre important d'intervenants, c'est que à la fois le conseil départemental, la gendarmerie, la police, le préfet au nom d'État et les communautés d'agglomération telles que celle de Béthune-Bruay se sont rendus compte de la nécessité d'accompagner non seulement les victimes au premier chef, mais aussi certains mis en cause dans leurs difficultés sociales. Et au-delà de la nécessaire répression des actes de délinquance, il était nécessaire d'accompagner socialement les victimes en premier lieu et ceux qui en auraient besoin en second lieu. C'est la raison pour laquelle on se mobilise assez formidablement dans le Pas-de-Calais sur ce sujet.
C'est un dispositif au niveau étatique qui est amené à augmenter. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ?
Au fur et à mesure des expressions de besoins des collectivités, l'État fera du cas par cas, mais nous décidons, en fonction aussi de nos possibilités financières, des possibilités donc d'augmenter ou pas le quota, si je puis dire, des assistantes sociales en police et en gendarmerie. Mais pour l'instant, avec la signature de la convention d'aujourd'hui, on a une couverture départementale qui est déjà très intéressante et qui, pour l'arrondissement de Béthune, je focalise là-dessus, qui est désormais exhaustive, totale.
Et vous avez le sentiment que ça donne de bons résultats ? Il y a déjà un intervenant au niveau police, par exemple ?
L'intervenante sociale au niveau police, c'est-à-dire district de Béthune, a donné des résultats vraiment absolument probant depuis maintenant plusieurs années, et c'est le modèle qui a présidé à la mise en cause de la convention, la mise en place pardon de la convention de ce soir. S'il existait en secteur police Béthune, ça avait existé en secteur gendarmerie du même arrondissement de Béthune, et tant mieux.
Nicolas Honoré, l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, qui répondait à nos questions. Pour être tout à fait complet sur ce sujet, sachez que l'intervenante sociale en gendarmerie de Béthune peut également proposer d'elle-même ses services si elle découvre une situation inquiétante.
Tears for Fears à l'instant sur Radio Plus avec Woman in Chains. Vous êtes toujours dans votre émission Savoir Plus consacrée à l'actualité du département du Pas-de-Calais. Et à présent, on va s'intéresser au Festival du film d'Arras qui démarre, eh bien, demain avec un reportage signé Radio PFM.
Dans la région, c'est bientôt la 20e édition du Arras Film Festival du 8 au 17 novembre, avec des avant-premières, des rétrospectives et des spectacles. Pour nous présenter le festival, j'accueille avec Boris, le délégué général du festival, Éric Millot. Ce festival est organisé depuis 20 ans par l'association Plan Séquence. Comment est venue l'idée de créer cette association il y a 30 ans ?
C'était simplement qu'on avait envie de partager notre amour du cinéma avec le public. Et donc, il y a 30 ans, quelques cinéphiles se sont rejoints avec toujours des objectifs très précis et surtout de créer un événement, un festival de cinéma d'importance internationale dans la région. C'était ça notre premier objectif, même si on a fait bien d'autres choses dans le domaine de l'animation, de la diffusion des films, de la formation aussi des publics. C'était quand même ça déjà notre point de départ, en fait.
La première édition, alors comment elle s'est faite ?
C'était un petit peu... au début, on savait ce qu'on voulait, mais il restait le problème du point d'implantation. Donc au départ, c'était plutôt une rétrospective régionale. Et donc c'était plus pour faire des tests, c'est-à-dire voir quelle ville où ça pourrait s'implanter. Donc on faisait des projections dans plusieurs villes de la région. Il y avait Lille, il y avait Arras, il y avait Douai. On a senti qu'il y avait une envie forte de nous accueillir à Arras. C'était un moment où l'éclosion culturelle était importante dans la ville. Et donc, on a fait partie des événements qui ont été poussés à ce moment-là au niveau régional. Et ça nous a permis effectivement de nous développer.
Vingtième édition du Arras Film Festival qui se déroulera du 8 au 17 novembre. Dans le programme du festival, disponible dans tous les endroits publics de la région, on découvre que vous avez choisi une actrice et réalisatrice comme invitée d'honneur.
C'est Nicole Garcia, qu'on avait envie d'accueillir depuis, j'ai regardé, pas mal d'années en fait, parce que c'est à la fois quelqu'un qui a un parcours intéressant comme actrice, mais aussi et surtout comme réalisatrice. Quelque part, elle est l'héritière de réalisateurs comme Claude Sauté. Et puis surtout, elle a été à bonne école, c'est-à-dire qu'en travaillant avec des gens comme Alain René, comme effectivement Claude Sauté aussi. Enfin voilà, elle a vraiment eu un choix, un parcours d'actrice qui a déjà été qualitatif et vraiment avec un sens aigu des choix. Et à partir du moment où elle passe à la réalisation dans les années 90, moi je trouve que de film en film, elle a affirmé un certain classicisme à la française. C'est pour ça que je fais le lien un peu avec Claude Sauté, mais vraiment une attention particulière, une vraie finesse dans l'observation des personnages, des rapports humains. Je pense à un film comme Selon Charlie, qui est vraiment un portrait des hommes aujourd'hui à différents âges. En plus, voilà. Alors en plus, elle a cette vie, elle sait traiter des personnages féminins, mais elle s'intéresse beaucoup aussi aux personnages masculins, et c'est vraiment en fait quelqu'un qui a une vraiment à part dans notre cinéma, mais en même temps qui est dans une continuité finalement d'un certain nombre de réalisateurs.
Vingtième Arras Film Festival dans la région du 8 au 17 novembre. Pour en parler, nous sommes avec le délégué général Éric Millot. Tous les ans, le festival organise une compétition européenne avec 6 longs métrages à découvrir. Sur quels critères l'équipe de Plan Séquence se base pour choisir 9 films ?
Il faut déjà que les films soient bons, qu'ils savent nous séduire et qu'ils savent nous interpeller. Et après, quand je dis bon, c'est qu'ils aient à la fois du fond et de la forme. Enfin, il y a aussi des logiques territoriales, c'est-à-dire il faut qu'on ait un peu de la représentativité de différents pays. Donc c'est assez complexe quand même de monter une compétition, surtout que c'est des films qu'il faut qu'on arrive à convaincre la production et la vente internationale que Arras c'est l'endroit pour lequel le plus important pour pénétrer le marché français. Donc sur des films qui sont comme des films d'auteur, et je vois que ça progresse puisque cette année je crois qu'on a au moins 2 ou 3 premières européennes et même une première mondiale. Ça donne de plus en plus de crédit à cette compétition qui a un vrai enjeu, puisque le prix c'est une aide quand même pour la distribution en France.
Et parmi ces films en compétition, on retrouve à nouveau aussi un petit peu déshabitué le couple Christina Grozeva et Petar Valkanov avec The Father. En 2014, ils avaient présenté The Listen dans compétition et puis ils avaient eu aussi l'Atlas d'Or pour Glory en 2016. Et ils sont aussi les boursiers Arras Days 2016.
Ouais. Ouais, alors c'est un peu c'est un peu les chouchous maison, les enfants maison. C'est vrai qu'on les suit depuis le début. Après, il faudra arrêter de les mettre d'un moment en compétition. Mais là, on est fiers de ce film parce qu'en fait, c'est un film effectivement qui a eu une bourse aux Arras Days. C'est-à-dire que quand ils ont présenté Glory il y a quelques années.
2016, ouais.
Ouais, c'était en 2016. Voilà, quand ils ont merci Boris. Quand ils ont présenté Glory, donc ils ont en même temps proposé aux Arras Days donc un jury qui se réunit et qui examine des projets. Donc c'était un film à l'état de scénario. Faut bien se rendre compte. Ce film, en juillet, a été présenté pour sa première mondiale en République Tchèque à Karlovy Vary. Il a obtenu le Grand Prix, quand même. Qui est pas rien, et donc on en est un peu fiers, et en plus on se faisait un point d'honneur à pouvoir être les premiers à le présenter en France. En plus, la bonne nouvelle, c'est que le film est acheté, va sortir en salle, c'est-à-dire que ça s'est fait depuis, donc aujourd'hui on sait que le film va pouvoir sortir dans les salles françaises, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est un peu différent d'habitude, je dirais que c'est plus dans le personnel que dans le collectif, même si la question du collectif est quand même présente, on est plus dans une relation entre un père et un fils. Mais il y a beaucoup de vécu aussi dans cette histoire.
Puis le film italien, Daphné, de Federico Bondi, atypique également.
Je crois que c'est la première fois qu'on a un film italien en compétition. C'est dur pour nous parce qu'il y a il y a de la concurrence en France. Et Daphné, c'est un coup de cœur parce que c'est une histoire, l'héroïne du film, en fait, je dis bien l'héroïne, c'est une personne qui est trisomique. Et ce qui est génial dans le film, c'est qu'elle n'est pas traitée du tout comme... c'est pas comme un être à part, en fait. C'est un vrai personnage de cinéma, avec ses qualités, ses défauts. Elle peut être à la fois attachante, mais également pénible, faut le dire honnêtement. Il a réussi à faire un vrai personnage de son héroïne, en fait.
Et comme toute compétition, il y a un président qui s'appelle cette année Thierry Cliffat.
Thierry Cliffat, oui. Alors en France, on raisonne pas comme ça. Son nom, c'est bizarre parce que il est très connu à l'international. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, qui a été un des deux piliers avec Marc Esposito de la revue Studio Magazine. Il connaît tout le monde dans le cinéma et il suffit de voir ses films parce qu'il a fait 4-5 longs métrages aujourd'hui. Et quand on voit les castings, surtout les actrices, enfin dans tous ses films, il y a Catherine Deneuve. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin, il y a une espèce de complicité comme ça avec ces comédiens, et je dirais que ça correspond à un cinéma du milieu qui est un peu mis à mal en ce moment, et donc qu'il faut défendre. C'est-à-dire des films qui sont à la fois des films tout public, mais qui sont en même temps des films d'auteur. Ça, c'est vraiment les films qui souffrent aujourd'hui, et le cinéma de Thierry Cliffat, c'est un cinéma qu'on a envie de défendre. Voilà.
20e Arras Film Festival dans la région, du 8 au 17 novembre. Pour en parler, nous sommes avec le délégué général Éric Millot. Et nous allons parler du Festival des enfants, un rendez-vous pour les petits et les grands, une bonne occasion.
Oui, on n'est pas obligé d'être petit pour aller voir les films.
Exactement. Ah non, surtout pas.
Mais c'est vrai que j'étais surpris des images, du graphisme, la richesse de la couleur de la bande-annonce du dessin animé extraordinaire Voyage de Marona.
Je dirais qu'on est vraiment sur un film qui peut intéresser les enfants, mais aussi les adultes. Parce qu'elle fait un travail sur le graphisme qui est extraordinaire. L'histoire est simple, c'est l'histoire d'un chien qui se souvient de ses maîtres. Alors, ils n'ont pas toujours été très sympas d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui, voilà. Je dirais que c'est le chien est meilleur que l'homme en fait dans le film. Mais c'est aussi ce qui est passionnant. Alors il y a cette petite histoire qui parle plein de choses, mais c'est tout le travail de dessin et de graphisme qui est formidable.
Il y a une sorte d'esthétique graphique et animatique qui est très intéressante.
Et d'ailleurs, Anka va faire une projection le 17, le dernier jour du festival, le dimanche à 11h, où là on rencontrera le public en fait.
Et quand j'en parlais avec Boris, ça faisait penser justement à notre film qui est programmé, mais à celui qui avait réalisé Le Tableau.
Oui.
Qui était riche aussi au niveau du graphisme.
D'ailleurs, dont on présente Jean-François Laguioni, et dont on présente Le Voyage du Prince. Ouais. Mais là, on est vraiment dans les grands auteurs du film d'animation français. Laguioni, c'est devenu une référence absolue dans le monde, et son cinéma est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est pareil, on est sur chez lui, on est sur un cinéma qui est à la fois pour les enfants, mais qui peut être vu aussi par les adultes. pense que chacun y trouvera beaucoup de plaisir à voir le Voyage du Prince. C'est pas un film du tout réservé à des enfants. Et c'est ça. Moi, je dirais qu'un bon film d'animation pour, il doit être, enfin, de qui dessine au départ aux enfants, il doit être capable de toucher aussi les adultes.
Et puis moi, je trépigne d'impatience de voir ce documentaire Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. Donc, c'est une suite, hein, je pense.
Oui, bien sûr.
Et là, c'est un
qui était un beau succès en salle, hein, d'ailleurs. Marche avec les loups, c'était une grosse surprise parce que c'est un film qui a eu beaucoup de succès en salle. Et donc ça, c'est un peu la continuité de son travail, en fait.
Et j'ai vu qu'il y avait un ciné-dance.
Vous savez qu'on aime bien expérimenter les choses. Donc, ça fait des années que je voulais faire un ciné-concert qui associe musique et danse avec l'image. Mais du coup, quand ils nous en ont parlé de leur projet, c'est pas du tout ce vers quoi on se destine au départ. Mais on a trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, c'est créer une espèce d'immersion, de lien entre l'image projetée et voilà, ça appelle à tous les sens en fait. C'est une expérience en fait à vivre. C'est difficile à raconter ce que va être ce ciné-dance parce que c'est un peu interactif. Ça va demander aussi une participation au spectateur.
Bah oui,
Alors, on va pas vous demander de danser le tango.
Il y a une part d'improvisation de toute façon.
Voilà.
Qu'on peut pas
mais il y a une expérience qui interpellera les enfants parce que c'est à vivre en famille pour moi.
Pour le mot de la fin, une question éventuellement, c'est les 20 ans. Est-ce que Plan Séquence nous réserve quelques petites surprises?
Une boule à neige, puis pour les plus grands, il y aura de la bière, par exemple. Une bière spéciale 20e anniversaire, voilà. Mais on a choisi un film qui nous représentait, qui nous ressemblait, en fait, pour les 20 ans. Et c'est le film de Roman Polanski, J'accuse, qui bien sûr parle de l'affaire Dreyfus, qui est pour nous un film, une raison pour laquelle on aime aller au cinéma.
La 20e édition du Racine Festival se déroulera du 8 au 17 novembre. Pour terminer la présentation de ce festival, vous retrouverez aussi les avant-premières, les découvertes européennes, le cinéma du monde, des rétrospectives et les ciné-concerts. La billetterie, c'est au Mégarama, 48 Grand Place à Arras. Pour obtenir plus de renseignements, vous allez sur internet www.arrasfilmfestival.com. Ce sujet a été réalisé par Bernard Liouen et Boris Guyot de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour ce reportage signé Radio PFM à Arras. Restez avec nous dans quelques instants d'en savoir plus. On parlera d'un événement qui se déroulera le mardi 12 novembre au centre arc-en-ciel de Liévin. Événement autour de la maladie d'Alzheimer. Phil Collins tout de suite sur Radio Plus. Très bonne fin de matinée. Et nous sommes eh bien toujours sur Radio Plus, hein, dans l'émission Savoir Plus, on va parler à présent santé, hein, avec le groupe ANAC qui gère plusieurs établissements de santé dans la région et qui organise avec le soutien des professionnels de santé et de différentes institutions dans le département du Pas-de-Calais un événement le mardi 12 novembre prochain au centre arc-en-ciel de Liévin, des 14h dans le cadre des clés pour bien vieillir, consacré à la maladie d'Alzheimer, prévenir la maladie d'Alzheimer, ce qu'il faut savoir. C'est le titre de cet événement qui sera suivi d'une soirée là dédiée exclusivement aux professionnels sur la limitation des risques liés à la prise de médicaments chez les patients âgés. Éric Batcave, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le directeur du pôle médico-social du groupe ANAC. Merci d'être avec nous en direct sur Radio Plus. Alors, qu'est-ce qui a poussé le groupe ANAC à organiser cet événement autour d'Alzheimer ?
Eh ben, écoutez, le groupe ANAC est un offreur de santé qui est bien implanté sur le territoire du bassin minier, à travers ses établissements sanitaires, ses établissements médico-sociaux et des établissements qui œuvrent et qui prestent au domicile des patients. Et donc, depuis l'année passée, on organise chaque année une conférence de santé publique pour toucher le maximum de personnes. Dans un premier temps, les individus du territoire. Donc ça, c'est la conférence de l'après-midi, qui cette année sera centrée sur la maladie d'Alzheimer, et le soir, à destination des professionnels de santé. C'est une manifestation que nous organisons conjointement avec la CPTS, c'est la communauté pluriprofessionnelle de territoire de santé, qui, comme vous l'avez expliqué, regroupe tous les libéraux sur le secteur, sur 12 villes de notre secteur, de manière à s'organiser entre nous, avec une structure hospitalière pivot et les établissements médico-sociaux, pour fluidifier les parcours et éviter qu'il y ait des trous dans la raquette.
Alors, que va-t-il se passer durant cet après-midi consacré à la maladie d'Alzheimer ? Quel est le programme ?
Alors, donc, on ouvre nos portes au centre arc-en-ciel qui nous a été mis à disposition par la mairie de Liévin. À 14h, les gens qui vont venir, plutôt centrés sur les seniors, hein, vont pouvoir visiter, il y a 7 stands qui vont être présents. Alors, il y aura des stands institutionnels, vous l'avez cité, il y a le conseil départemental pour savoir quel type d'aide on peut obtenir et quel dispositif on peut solliciter si jamais on est victime de la maladie d'Alzheimer ou si on a un proche qui en est victime. Il y aura le stand Humanis, qui sont des organismes de prévoyance, et il y aura un stand qui est tenu par un de nos partenaires, France Alzheimer Pas-de-Calais, de manière à montrer quelles sont les solutions innovantes qui existent aujourd'hui sur le territoire. Il y aura aussi des stands qui seront tenus par des associations qui eux-mêmes ont des dispositifs en interne qui donnent des solutions innovantes. Je pense à la vie active avec l'accueil de nuit des personnes atteintes par la maladie Alzheimer. Je pense à Filieris avec une association d'aide à domicile spécialisée à Alzheimer. Je pense à Préva RMS aussi avec la plateforme de répit à destination des aidants et nous-mêmes, hein, groupe ANAC, parce qu'on a un établissement qui est vraiment spécialisé dans l'accueil de la maladie d'Alzheimer. Mmh. Ensuite, à 15h, là dans la salle de cinéma du rez-de-chaussée, qui est parfaitement accessible d'ailleurs à toutes les personnes en mobilité réduite, on aura 3/4 d'heure de présentation par un gériatre et un médecin de ville sur qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer. Les premiers signes avant-coureurs qui pourraient faire penser que j'ai peut-être potentiellement une maladie d'Alzheimer, et derrière, qu'est-ce que je dois faire si jamais j'ai tel ou tel symptôme. L'idée est de vulgariser le plus possible et de faire en sorte que les gens puissent avoir quelques réponses, peut-être à leurs questions, à leurs peurs, et derrière, peut-être ouvrir le débat sur qu'est-ce que je puis faire en matière de prévention pour éviter les affres de cette maladie. Viendront par la suite rejoindre sur la scène deux autres intervenants, le président de France Alzheimer Pas-de-Calais et une infirmière de la maison de l'autonomie du conseil départemental, de manière à pouvoir répondre au public aux différentes interrogations qui seront portées sur la maladie et quelles sont sur le territoire les réponses que nous pouvons apporter dès maintenant. Voilà.
Alors aujourd'hui, ce sont près de 3 millions de personnes qui sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Et près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Il y a urgence, selon vous, à sensibiliser plus sur les signes d'apparition de la maladie et sur le sujet, plus globalement?
Ah oui, c'est de manière assez certaine, hein, quand on discute avec les professionnels libéraux avec lesquels nous sommes fréquemment en contact, ce sont des questions récurrentes qui leur sont posées. Et en fait, il faut essayer de vulgariser, il faut pas avoir peur de la maladie, ce sont des choses, on a une avancée en âge un peu importante, hein, de notre population, tant mieux, mais derrière, il faut aussi savoir ce qui existe. Il existe beaucoup de choses qui se sont déployées, hein. Il y a eu un plan Alzheimer qui a été une des grandes causes nationales, qui a créé un certain nombre de dispositifs. Il faut que les gens et les populations puissent s'en saisir si jamais ils sont malheureusement victimes de cette maladie. Donc oui, il y a vraiment un intérêt, et intérêt important. Et d'ailleurs, ce qui prouve le succès, on a beaucoup de gens qui nous sont revenus, hein, en disant qu'ils vont participer à l'événement, de manière, parce que c'est vraiment un questionnement important pour les seniors d'aujourd'hui.
Est-ce que la maladie d'Alzheimer est encore un sujet tabou, selon vous?
Alors tabou, je dirais pas tabou, mais je dirais que c'était un sujet qui rend mal à l'aise. C'est en discutant avec nos médecins, par exemple, hein, par exemple à la polyclinique de Riomont, qui est devenu un pôle de référence gériatrique, il y a des consultations mémoire, il y a des hôpitaux de jour qui se tournent autour de cette thématique, et une des clés, c'est l'annonce. Au moment de l'annonce finalement du diagnostic, quand on annonce à la personne ou à son entourage que ça y est, le diagnostic est posé, il y a une maladie d'Alzheimer, il y a un trouble général là, qui se met en place. À l'inverse, quand on annonce à un patient qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer, tout d'un coup, un énorme ouf de soulagement. Alors qu'il peut être victime d'autres types de pathologies, malheureusement, hein, avec des dégénérescences cérébrales. Donc oui, il y a vraiment un sentiment, parce que beaucoup de gens en parlent. Après, c'est le métier à la fois des médecins et de l'ensemble de l'entourage, hein, de tous les professionnels de santé, de pouvoir accompagner correctement la maladie. Il existe vraiment pas mal, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de solutions qui permettent aussi de faire reposer l'individu, de vivre plus sereinement, et aussi son entourage, hein, bien évidemment. Les aidants naturels qui sont très fortement impliqués dans le suivi de la maladie.
Eric Bactcave, a quelques mots également, hein, sur la soirée là qui est exclusivement dédiée aux professionnels. Et il y a un besoin aussi de sensibiliser les professionnels de santé régulièrement. Là, vous parlerez ce jour-là de la limitation des risques liés à la prise de médicaments, hein, chez les patients âgés.
Exactement. Donc le soir, là, à destination de tous les professionnels de santé, hein, qu'ils soient en institution, à l'hôpital ou qu'ils soient en ville dans leur cabinet, l'objectif, c'est de parler du bon usage du médicament. Une thérapeutique que l'on prend quand on a 20 ans, quand on a 50 ans, quand on a 80 ans, n'aura absolument pas le même effet sur le corps de l'individu. Et plus il y a avancé en âge, plus il y a malheureusement de pathologies qui peuvent s'associer, et auquel cas il y a différentes thérapeutiques qui sont mises en place. C'est ce qu'on appelle les effets iatrogènes, et qui peuvent être par combinaison, vraiment qui peut altérer pas mal la situation individuelle de santé. Donc là, l'objectif, c'est le soir, de pouvoir, là encore, pendant trois quarts d'heure, on a un point de situation par un gériatre de la Polyclinique de Riaumont, qui est le coordonnateur de l'ensemble de la filière gériatrique, hein, le docteur Mazagic, qui fait un peu office de grand sachant sur le sujet, et qui va permettre de situer un petit peu la problématique. Et derrière, table ronde qui va voir monter sur scène donc un gériatre, un médecin de ville, il y aura une infirmière libérale qui se déplace au domicile des individus et un pharmacien d'officine. L'objectif, c'est à chaque fois qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles solutions on peut trouver ensemble de manière à pouvoir limiter un petit peu ces risques. Mmh. Aujourd'hui, on peut très bien envisager, par exemple, des consultations qui se font sur la problématique iatrogénique, donc du bon usage du médicament pour les seniors. Donc voilà, ça peut être des choses, on peut repérer des situations, on pourrait se dire, par exemple, il y a une expérience qui vient de se monter à Lille et à Amiens, où quand un senior arrive à 10 prises de médicaments par jour, est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, à un moment, de faire un point général sur la situation et de voir est-ce que toutes ces thérapeutiques sont bien adaptées? Et est-ce qu'entre elles, elles ne génèrent pas des effets secondaires qui peuvent être plus préjudiciables que bénéfiques pour l'individu?
Alors, Eric Batcave, très vite, il nous reste un peu moins d'une minute. Dernière question, comment participer pour le grand public à cet événement?
Alors, je vous ai dit, on a eu vraiment beaucoup de retours de la part de des seniors sur les 12 villes de la CPTS. Moi, j'engage vraiment les gens qui souhaiteraient venir nous rencontrer et participer à cette conférence de venir dès l'ouverture des portes à 14h. On sera obligé de donner des tickets de manière à ne pas avoir plus de monde que de place dans cette salle, hein, pour des raisons évidentes de sécurité. Donc vraiment, j'engage les gens à venir et même si jamais la conférence était couronnée de succès et s'il y avait trop de monde, on permettrait quand même aux gens, bien évidemment, d'aller voir les stands par la suite. Mais vraiment, faut arriver tôt parce que oui. Déjà, c'est totalement gratuit, hein, c'est que de la bonne volonté autour de cette thématique, mais oui. Et avoir une place, quoi.
Merci beaucoup Eric Batcave. Je rappelle que vous êtes le directeur du pôle médico-social du groupe ANAC. Merci à vous d'avoir répondu. Merci. Voilà, c'est la fin de Savoir Plus.